Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis, 14h-15h sur O2 Radio.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour Jeunesse Influente sur O2 Radio 91.3. Et exceptionnellement, ce n'est pas Pierre qui présentera l'émission aujourd'hui. C'est Yon et moi-même, Noé, deux stagiaires de O2 Radio. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible et mais très important, surtout avec le climat d'aujourd'hui, c'est le harcèlement. Alors, il peut prendre énormément de formes différentes, que ce soit sur Internet, dans la réalité ou via des actes physiques ou simplement moraux. Mais donc aujourd'hui, on va en parler en plateau et Yon, je vais te laisser t'introduire et introduire les invités.
Et bonjour à tous, et donc ouais, aujourd'hui on va parler donc du harcèlement. Donc autour de la table on a plusieurs invités qui vont nous parler de ce qu'ils ont vécu, de leurs sentiments par rapport à tout ça, etc. Donc autour de la table on se retrouve avec Mayra.
Bonjour.
Salut à toi. Avec Kelly.
Bonjour.
Jade.
Bonjour.
Et Virginie.
Bonjour.
Qui est un petit peu loin du micro, mais pas de soucis. Donc voilà, tout ont vécu des problèmes en lien avec le harcèlement. Donc leur avis et leur expérience vis-à-vis de ça, ça va être très intéressant de parler avec eux. Donc on va faire un petit dialogue autour de la table. Donc je ne sais pas, par exemple, Mayra, si tu veux commencer par te présenter rapidement. Et toi, ton histoire, ou je ne sais pas.
Je m'appelle Mayra, j'ai 16 ans. Je suis à Mission Locale et je suis déjà venue plusieurs fois à la radio. Donc moi, j'ai vécu déjà plusieurs formes d'harcèlement. Donc il y avait l'harcèlement régulier. Après, il y a aussi celui de la famille. Enfin, j'en ai vécu pas mal, en fait. Donc,
Quand tu dis harcèlement régulier, c'est-à-dire dans le même lieu, au même endroit
Oui, à l'école, je me suis fait... En fait, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes un peu de calme, mais ça, c'était quand même régulier, ça revenait, en fait. Voilà. Ok.
Et c'était tout le temps les mêmes personnes ou ça changeait ?
C'était souvent, il y avait deux mêmes personnes à peu près. Mais en fait, il y avait ce côté où j'avais tellement besoin d'avoir des amis. En fait, ils étaient sympas, donc après ça passait, c'était bon. Et après, boum, ils repartaient, voilà.
D'accord, donc ils se faisaient sentir importants pour toi.
Ouais.
Comme ça, ils restaient près de toi.
Ouais.
Et au final, en fait, c'était pas forcément des bonnes personnes.
Après, il y avait une personne, c'était juste de la haine pure envers moi. Sans
d'accord,
aucune...
ok. Sans forcément qu'il y ait de raison. Ok, d'accord. Et ça a duré combien de temps, ça ? Enfin, peut-être c'est encore le cas, je sais pas.
CP jusqu'en CM2, à peu près.
Ah oui, d'accord, ok. Donc, d'accord, quand t'étais jeune, ça marche. Et depuis, t'as pas eu d'autres expériences de ce genre-là ? Ça
a réussi à... La famille ou les amis, ou avec le recul, on se rend compte que ça, c'est pas vraiment. Ça se fait pas, mais sinon.
Et comment t'arrives à gérer le harcèlement du coup dans la famille ? Parce que ça, c'est compliqué parce que la famille c'est quand même proche, quoi.
Ouais,
des gens qu'on voit tous les jours peut-être.
Ouais, ouais.
Je sais pas.
En fait, c'était avec mon père. Je crois que ça s'appelle le complexe d'Oedipe que j'ai fait, où je me suis pas du tout rendu compte. En fait, le complexe d'Oedipe, c'est tu es très fusionnel avec la personne, et je me suis pas rendu compte. Et c'est vers 4e où là j'ai eu un gros déclic et gros pétage de câble et tout, voilà.
Ok. Et si c'est pas trop indiscret, ça s'est passé comment ? Je sais pas, t'as attrapé ton père, tu as dit écoute là, comment ça s'est passé?
En fait, il voulait me faire déménager, changer d'école et tout, et je lui ai dit non en direct. Et après, du coup, il y a un jour, je suis venue et je lui ai dit par contre, je reste que le week-end. Il m'a dégagé. Et après.
Et t'étais mineure.
Oui. Enfin, il m'a dégagé, j'étais à 5 minutes de chez ma mère et tout, mais enfin, il a fermé la porte au nez. Et après, une fois, il m'a supplié qu'on parle et on est allé dans un parc public et il a menacé de se suicider et tout ça. Enfin, voilà.
Ah oui, et donc, quand t'étais en quatrième, ça
Ouais.
Ah oui, donc t'avais 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, 13, 14.
Ah ouais, t'étais jeune, d'accord.
Et c'est parce que tes parents ont divorcé et du coup, c'est ça qui a créé la fracture en soi.
Le complexe d'Oedipe, ça s'est fait avec le fait qu'ils aient divorcé, je pense, tout simplement. Parce que mon père me faisait prendre une place qui n'était pas la mienne, de mère, d'un peu tout, quoi.
Mais parce que, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui ont ce problème-là aussi avec le divorce. Y a une fracture qui se lie entre les parents et ça se répercute sur l'enfant. Et du coup, chaque parent veut à tout prix avoir le dessus sur l'enfant, quoi. Ouais. Donc après...
En fait, ma mère, ça allait parce qu'elle refait sa vie. Enfin, voilà, elle voulait juste mon bonheur. C'est plus mon père où ça a été compliqué. Il a tout mis sur ma mère. Enfin, il disait que s'il aimerait plus jamais une femme à cause de ma mère. Enfin, voilà, à tout mettre sur elle.
C'est ça le problème. C'est quand on met l'enfant dans le débat. Mais c'est une forme de harcèlement aussi. moral.
Bah oui, bah après il y avait le physique et le moral sur mon poids, sur voilà, sur plein de choses.
Okay. Et aujourd'hui, tu dirais que ça va, tu t'en es tiré un peu de cette situation ou il y a encore des répercussions ou des événements qui te font penser que c'est pas totalement terminé, je sais pas.
Bah il y a le un manque de confiance en moi et forcément bah quand même j'ai du mal parce que bah malgré le fait que j'ai vécu du harcèlement avec mon père, bah, je l'aime toujours, donc pour moi c'est compliqué, mais je l'ai bloqué parce que je veux plus de contact avec.
Et aujourd'hui du coup, tu n'as plus de contact même physique, genre tu ne le vois plus
non.
du tout?
Bah, ça c'est depuis 4e où je ne l'ai jamais revu physiquement.
Ah, depuis la 4e tu ne l'as jamais revu?
Oui, et après par un texto, là c'est, je l'ai bloqué il y a quelques mois.
D'accord, donc il y avait toujours un lien ouais. Par texto, mais depuis quelques mois donc il y a plus.
Et il y a eu un procès, enfin voilà.
Ah oui d'accord.
Bah, pour ma garde.
Et lui, après, il a tenté après d'essayer de te revoir, de te recontacter ces dernières années?
Oui, il a essayé par texto, par la famille de son côté qui voulait me faire venir, etc. Moi, je le sentais, donc oui, très clairement. Mais il y avait le côté où, par exemple, une fois, je me suis proposée, je me suis dit, ça serait cool, peut-être qu'on en parle. Et de suite, il a fait, ah non, mais je peux pas me permettre de te garder. Et puis, niveau transport, c'est chaud, alors que j'avais juste parlé qu'on se voit une fois pour discuter. Donc
il trouvait des excuses.
Ouais.
Très bien, ok, je vois. D'accord, merci beaucoup. Jade, du coup, pareil qu'on a fait avec Mayra, on va voir un peu, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé. Donc, si tu veux bien nous en parler avec tes mots, c'est comme tu veux.
Déjà, je m'appelle Jade, j'ai 19 ans. C'est la deuxième fois que je viens sur Eau de Radio. Et moi, j'ai vécu du harcèlement scolaire. Du coup, en CM1, en 4e et en 1ère.
D'accord, donc aux 3 stades de la scolarité en fait.
C'est ça.
Ok, d'accord. Et chronologiquement, ça s'est passé comment d'abord quand tu étais petite, après au collège et tout, ce que tu peux nous raconter
En CM1, c'est parce que j'étais la petite nouvelle.
Ah.
Voilà. J'étais dans les 3 premiers de la classe.
Ah oui, d'accord, ok.
Et il y en a un qui m'a défendue et qui s'est pris un coup de poing dans le ventre en me défendant.
En te défendant, d'accord.
En CM1.
Donc ça, c'était tout, l'école, ok.
Voilà.
Bon, sympa le début de la scolarité. Collège ?
Collège, c'était harcèlement physique et harcèlement moral aussi. Je rentrais dans l'établissement, on m'insultait, je sortais... Une fois, je suis sortie de l'établissement et on m'a tapé devant l'établissement.
D'accord.
Et personne n'a rien fait.
L'établissement n'a pas réagi.
Alors, aux yeux du principal et de la principale adjointe, c'était de ma faute.
D'accord, alors attends, juste pour résumer, tu t'es fait frapper en sortant de l'établissement, mais aux yeux de l'établissement, c'était ta faute.
Oui.
Ok, bon.
Ouais.
C'est...
Et je me suis même fait étrangler dans l'établissement et c'était ma faute.
D'accord.
Je sais pas.
Et t'as jamais su pourquoi il y a eu cette espèce d'amnésie par rapport
non.
à tout ça? Non.
Et je sais pas combien de reprises on m'a convoqué dans le bureau du principal pour que je serre la main de mes harceleurs.
Et est-ce que c'était tout le temps les mêmes pendant oui. cette période-là? Ça n'a jamais changé?
Oui.
C'était un groupe ou c'était...
Ils étaient 3.
3? Très bien, d'accord. Et compliqué. Et lycée, du coup?
Lycée, harcèlement par mon ex.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, pas facile. Et comment t'as fait donc pour te motiver à te lever le matin pour aller en cours? Parce qu'on sait que, on y est tous passés quoi. Déjà rien que le lycée, tout ça, c'est compliqué de se lever. Et en plus de ça, quand ça se passe pas bien, qu'est-ce que t'as fait de tenir?
CM1, c'est... déjà CM1, moi pendant une longue période, je vivais chez mon père. Et mon père, il m'emmenait tous les matins à l'école. Et il connaissait des parents. Et c'est lui qui en a parlé.
Ok.
De calmer leurs enfants. Voilà. 4e, je voulais très clairement arrêter. Pendant une semaine, j'y suis pas allée. Et après, j'y suis retournée. Et puis, ça s'est plutôt passé vers la fin de l'année. Et j'ai appris par la suite, parce que le CPE me soutenait énormément. J'ai appris par la suite qu'il y en avait une, elle était en 3e. Elle n'avait pas pu passer son bac, son brevet. Son brevet, je ne sais plus. Il y en a un, il a été exclu de l'établissement, celui qui me tapait.
D'accord, donc ils ont fini par être sanctionnés oui. par la suite, mais pas directement après l'effet qui s'est passé vis-à-vis de
c'est
toi.
C'est ça, et d'accord. C'est surtout parce que le CPE m'a soutenu.
Ok, et est-ce que pendant ces périodes-là, tu as eu des solutions qui t'ont été proposées, par exemple de parler avec l'infirmier, l'infirmière, ou quelqu'un d'autre que le CPE? Enfin, est-ce que tu as
ces périodes-là, non, mais en première, on avait une cellule qui était pour le harcèlement.
Ok.
Donc là, j'en ai direct parlé à la cellule. Et ils nous ont convoqués tous les deux dans le bureau pour qu'on puisse parler.
Ok. Et t'as senti un changement après ou rien du tout?
Ah non, après, c'était encore pire, plus ou moins, parce que j'avais plus d'amis, on me laissait seule. Il avait essayé de faire en sorte que je me retrouve vraiment toute seule. Pendant un an, je suis restée toute seule dans l'établissement, sans repère, on va dire. C'était que des trucs comme ça.
D'accord, du coup, ça provoquait un isolement chez toi.
Enfin, oui.
Pas voulu, hein, bien sûr, mais du coup, ça a fait que du coup, tu t'es retrouvée très isolée.
Et j'ai un ami qui a essayé de me défendre auprès de, envers lui. Sauf que mon ex a essayé de porter plainte contre nous.
Ah d'accord. Et tu sais pourquoi? Enfin,
parce
le motif
que
de la plainte?
Il a essayé de me défendre. Ah, grosso modo.
Mais d'accord, ok. C'est un principe que je ne connaissais pas.
Moi non plus.
Mais bon, d'accord, très bien. Eh bien, ouais, c'est compliqué.
Oui.
Mais bon, là, ça va mieux en ce moment ou...
Oui.
D'accord, bon, c'est le principal. Que tu t'en sois sorti, c'est cool. Mais merci pour ce témoignage. De toute façon, on reviendra tout à l'heure sur un peu tous les témoignages parce qu'on va parler du harcèlement globalement. Et vous pourrez toutes ressortir un peu vos témoignages pour épier vos propos. Et donc là, on va voir avec toi, Kelly, si, avec tes mots, pareil, ce que tu as à nous dire par rapport au harcèlement, qui prend plusieurs formes, comme l'a dit Noé. Ça peut être du cyberharcèlement, ça peut être physique, psychique, continu, sur quelques jours simplement. Voilà, donc parle-nous, toi, de ce que tu as senti, que tu as vécu.
Déjà, je m'appelle Kelly, j'ai 17 ans. Et moi, c'est plus harcèlement de rue, où en fait, ça s'est passé trois fois, où je sortais avec des amis, en l'occurrence Jade. ça s'est passé une première fois où en fait, on était avec une amie qui est maman d'un petit garçon, et elle était avec son chien, et en fait, on promenait nos chiens, et on s'est fait suivre en camionnette en bas de chez moi. Il y avait une camionnette qui faisait le tour.
C'était de jour ou c'était le soir?
Le soir.
Le soir.
Le soir, mais pas très tard quand même, il était 22h, un truc comme ça. Et au début, on voyait une camionnette tourner, mais on n'a pas fait gaffe sur ça au début. Et en fait, c'est quand on a commencé à marcher pour les chiens, la camionnette s'est arrêtée à côté de nous. C'est vraiment dans une camionnette, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas s'il y a d'autres gens. Et j'ai regardé mes copines, j'ai fait là, c'est instinct de survie, il faut courir. Là, je sens que c'est un mauvais truc. Et le mec, il a fait tour du rond-point pour essayer de nous retrouver. Et j'ai dû m'enfermer avec Jade et mon ami dans mon hall de bâtiment. J'ai dû appeler ma mère en urgence pour qu'elle raccompagne mes copines jusqu'au tram pour qu'elle rentre chez elle. Après, les deux autres fois, j'étais toute seule. Enfin, je rentrais pour aller chez moi après une sortie. Et c'était des hommes où on posait beaucoup de questions sur ma vie privée. Tu vis avec tes parents, mais t'as quel âge, c'est quoi ton monde, mais t'habites vers où, tu descends vers où et tout. Et vraiment, il y a une fois où j'ai dit non, mais il y a mes frères, ils m'attendent au tram et tout. Alors qu'il n'y avait personne, je paniquais, j'ai dû appeler en urgence une amie et tout. Et deuxième fois, il y a un mec, je sais pas c'était quoi ses intentions, mais quand je lui ai sorti que j'étais mineure, là il s'est calmé direct, il a fait écoute, fais comme si j'avais rien dit en fait.
D'accord, ok. Okay. C'est vrai que ça c'est des situations de plus en plus qu'on entend, enfin moi je le vois avec mes amis filles aussi, c'est ce truc là des abordages sauvages, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Alors après c'est vrai qu'on sait jamais comment réagir. À chaque fois on privilégie la vision où la personne nous veut du mal, mais ouais, c'est vrai que ça peut impressionner en fait, surtout l'histoire de la camionnette, surtout qu'on connaît tous les clichés dessus et tout. Et toi du coup, comme tu dis, t'as bien réagi, t'as de suite capté qu'il y avait un truc qui allait pas, etc. Donc à ce niveau-là c'est bien. Et t'as jamais revécu de choses similaires
Bah non, parce que du coup, bah, le soir, je ne sortais plus. Parce que...
Et t'avais quel âge déjà à ce moment-là?
C'était cette année.
Ah, c'était cette année.
Il n'y a pas longtemps.
Ah d'accord, ok.
Bah en fait, c'est que du coup, je ne sortais plus parce que bah, du coup, ma mère m'en empêchait parce que du coup, je lui ai dit ce qui est normal, bah, c'est une maman. Voilà, donc elle n'a pas trop envie qu'il arrive quelque chose à sa fille, quoi. Et bah, du coup, je sortais plus, je sortais que la journée. Et même la journée, je me sentais pas en sécurité.
Oui, est-ce que tu avais toujours quelque chose autour de toi qui te disait, ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui me suit ou
oui.
Je sais pas, des choses comme ça qui...
Si.
Ça t'a fait ça?
Oui, et du coup, maintenant, j'ai des réflexes que même quand je vais promener mon chien, bah, le réflexe, où je me retourne parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi.
Ouais.
C'est horrible de... Enfin... Je sais pas comment expliquer, parce que je suis pas la seule à avoir ce genre de problème, que ça soit femme ou homme. Hein. Parce que, bon, on parle plus des femmes, mais il y a les hommes aussi. Et...
Ouais, bon, c'est parce que ça arrive aussi plus aux femmes, peut-être.
Voilà. Et du coup, oui, je me sens plus en sécurité, j'ai plus envie de sortir, j'ai envie de rester chez moi, en fait. Parce que même si j'ai envie d'avoir une vie et tout, bah, en fait, je peux pas. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va me suivre derrière, je sais pas ce qui peut m'arriver.
Et ça, c'est un peu le problème de ce genre d'événement, parce que c'est un événement qui va durer une demi-heure, même pas. C'est la personne qui t'a suivi, tout ça, là, le moment où tu cours, que tu t'enfermes, que t'appelles ta mère et tout, ça dure quoi, une demi-heure?
Ouais.
Et au final, ça traumatise pendant des années, et
oui.
On peut garder des séquelles à vie sur un événement isolé comme ça, de harcèlement de rue, quoi, donc c'est compliqué.
Et justement, un événement comme ça, bon là tu nous en parles aujourd'hui, mais est-ce que tu en as parlé à des gens qui ont essayé de t'aider ou quoi? Ou est-ce que tu n'as pas eu d'accompagnement pour ce genre de choses, pour essayer de plus y penser ou au moins le mettre dans un côté, quoi, pour pas que ça te ronge non plus?
À part ma famille, c'est tout. Après, j'ai pas vraiment d'accompagnement. Et mes amis, bah, ils sont là. Après, je sais qu'ils sont là pour moi. Bah, okay. Du coup, surtout avec Jade, même si elle a vécu la même chose que moi. Enfin, on en parle, mais on n'est pas suivi, quoi. Enfin.
Ouais, il y a pas de choses qui ont été
voilà.
Mises en place. Mais après, est-ce que t'en as parlé, peut-être, ou pas suffisamment? Enfin, à part à ta famille, je veux dire.
Non.
Non, t'as pas parlé.
Bah, à part vraiment, j'ai que ma famille et mes 2-3 amis que j'ai ici, et c'est tout.
D'accord.
J'ai pas.
Ok. Parce que du coup, nous, on a regardé un peu tout ce qui existait dans juste les 2-3 trucs que on a. Il y a des numéros de téléphone qui existent, mais après bon, c'est surtout pour le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, mais tout ça par exemple, je demande à tout en même temps, je sais pas si vous connaissez les numéros pour ce genre de... Bah, vous avez par exemple le 3020, c'est un numéro que vous pouvez appeler, donc ça c'est surtout contre le harcèlement scolaire, ce qui vous aurait été utile peut-être dans le passé, et contre le cyberharcèlement, ce qui aurait pu être aussi pas mal utile parce que généralement c'est la continuité, malheureusement, c'est le 3018. Et donc, c'est deux numéros très méconnus, mais qui peuvent être utiles. Donc voilà, c'est pour ceux qui ne savaient pas, ça peut être très utile. Donc, bah, en tout cas, merci Kelly pour ton témoignage. Maintenant, on va avoir le témoignage de Virginie. Donc, bah, pareil, avec tes mots à toi, avec les limites que tu te fixeras, si tu peux nous raconter ton histoire. Ben voilà, on t'écoute. Et puis, c'est toi qui vois là où tu t'arrêtes, mais nous, on est là pour en parler.
Bonjour. Bah, moi, la différence, c'est qu'effectivement, c'est déjà, moi, je suis plus âgée. Donc, du coup, je m'appelle Virginie, j'ai 37 ans et je suis maman. Et donc, moi, j'ai vécu donc, ce qu'on appelle les violences conjugales. Voilà. Donc, là, voilà, j'ai passé 10 ans de ma vie donc, avec quelqu'un qui donc, a levé la main sur moi-même et sur mes enfants. Et qu'effectivement, voilà, c'est très, très compliqué de sortir de cette situation. Pour la simple et bonne raison, c'est que bah déjà, il faut, c'est très difficile aussi déjà d'accepter les coups de la personne que, bah, avec qui vous construisez une vie, avec qui vous avez des enfants, vous créez une famille où il y a des sentiments, et que puis qu'un jour ça vous arrive, puisque on ne crée pas une famille pour qu'un jour ça se détruise de cette manière. Voilà, donc effectivement, moi j'ai pris la première gifle au bout de 6 ans de relation, donc j'ai rien vu arriver. Et effectivement, ça a été crescendo après, par la suite. Son entourage, sa famille était parfaitement au courant. Donc effectivement, que ce monsieur donc, avait des problèmes donc, d'alcool et de violence, puisque sa propre famille, il avait déjà levé la main sur son propre frère, sa sœur, sur ses amis, bousculé sa mère. Connaissait bien les problèmes d'alcool aussi. Voilà, donc il n'y avait pas forcément de grandes surprises, entre guillemets, quand ça s'est produit sur moi. Sauf qu'effectivement, tant que je restais avec monsieur, la famille ne me créait pas de problème. Du moment où, effectivement, avec monsieur, ça s'est terminé, là, ça en est passé sur un autre stade. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que le dernier coup que j'ai pris, donc je suis partie au commissariat. Donc, on était pendant la période du Covid. J'ai appelé le commissariat pour prévenir que j'étais donc positif au Covid, puisque j'ai eu un Covid long. Donc je suis restée positive quand même pendant 8 semaines. Donc à l'époque, on était isolés quand on était positif. Et donc du coup, j'ai prévenu le commissariat vraiment pour venir porter plainte. Et donc j'avais effectivement les traces sur le visage. On m'a dit, il n'y a aucun problème, madame, vous pouvez venir, on vous attend demain pour midi. Quand je suis arrivée donc effectivement au commissariat, donc j'étais accompagnée donc par un de mes enfants et j'ai dit voilà je vous ai appelé hier donc j'ai subi des violences, ça se voyait de toute façon sur mon visage. Je viens pour porter plainte, j'ai prévenu que j'avais le Covid pour pas contaminer tout le monde. On m'a pas pris du tout dans l'urgence, on m'a gentiment mis dans un coin sur une chaise et on m'a dit que j'avais à peu près 4 heures d'attente pour déposer plainte. Sauf que dans l'état physique, moral, plus le Covid, j'en étais incapable. Il s'est passé quoi ? C'est que je suis rentrée chez moi. Voilà. Je suis restée par la suite de mon Covid. Malheureusement, je suis restée alitée pendant 4 mois et demi parce que j'ai perdu énormément de poids suite à ça. Et quand j'ai trouvé la force, effectivement, derrière de porter plainte, le policier donc, qui a pris la plainte s'est trompé sur une date. En prenant la plainte, ce qui fait que la plainte est partie sur du sans suite. Voilà, puisqu'automatiquement, on partait du principe qu'au moment où la plainte a été déposée, monsieur n'était plus dans les lieux, puisqu'il y avait un problème de date. Voilà, même si le policier a reconnu parfaitement son erreur, c'était trop tard. L'avis de classement était déjà parti. Voilà, donc après, ça a été aussi une grosse bataille par rapport aussi à la garde des enfants. Donc là où vous, effectivement, donc, vous donnez les preuves, vous justifiez. Voilà, et là, c'est tout dépend sur qui vous tombez, si vous avez un bon avocat ou pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne avocate à l'époque qui m'a été conseillée parce qu'il faut savoir que pour les personnes donc, victimes de violences, vous avez ce qu'on appelle donc, le CIDFF. Voilà, ou que vous pouvez rencontrer, où on vous propose des listes d'avocats qui sont donc spécialisés dans ce genre de choses, où vous pouvez rencontrer aussi des juristes gratuitement, et vous avez aussi des suivis psychologiques pour mettre en place. Donc voilà, mais ça a été très compliqué puisque moi j'ai quand même eu droit à cette fameuse phrase de me dire, mais vous savez, madame, ce n'est pas parce que monsieur vous frappe que c'est un mauvais papa. Donc ça ne justifie pas au niveau de leur enfant. Voilà. Non. Mais même mes enfants ont pris des coups. Mais voilà. Donc ça a été un très très gros combat qui n'est toujours pas terminé. On va être très franc. Je suis toujours en procédure, toujours en bataille. Et c'est aussi un coup parce que plus les procédures avancent, quand vous êtes sur une procédure, on va dire, normale, si vous avez droit à l'aide judiciaire, c'est très bien. Si vous n'avez pas droit à cette aide, donc du coup, il faut payer, puisqu'après, on va sur du pénal, on va sur ce genre de choses. Et là, vous rentrez dans des frais où si vous avez de l'argent, c'est bien. Si vous n'en avez pas, j'ai envie de vous dire, vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes. Et on n'en parle pas assez. C'est très compliqué. Et maintenant, la nouvelle défense, en plus, au niveau des juges, ce genre de choses, c'est que maintenant, quand vous êtes une maman et que vous allez expliquer votre situation, même si vous fournissez des preuves, vous avez des témoignages, et il y a des fois, ça se retourne même contre vous, où on va vous dire complètement que vous manipulez vos enfants. Vous êtes accusé, donc, ce qu'ils appellent le nouveau terme maintenant, de l'aliénation mentale. Voilà.
D'accord.
Voilà, donc... oui, tout à fait, exactement. Donc voilà, et ça va très 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 loin et on n'en parle vraiment pas assez. Pourtant, Dieu sait qu'il y a énormément de femmes qui sont mortes sous les coups, qui ont prévenu et il n'y a rien qui est mis en place. Voilà. Et les enfants, on ne les écoute pas non plus assez. Des fois, il y a des parents qui sont toxiques et il faut mettre les holà. Donc voilà, donc mon histoire est très lourde, très longue aussi. Et toujours en procédure en cours, effectivement, malheureusement. Mais voilà, c'est vraiment aussi... et c'est quelque chose où je m'investis énormément aussi maintenant, parce qu'il y a énormément de femmes qui baissent les bras, qui pensent qu'elles ne se sortiront jamais de cette situation. Et c'est vrai qu'il faut tomber sur les bonnes personnes, sur les bons conseils. Et au départ, ce n'est pas évident du tout. Moi, je me suis vue avec des avocats qui... mon dossier était tellement lourd pour eux, ils ne répondaient même plus au téléphone.
Ah oui.
Oui.
Carrément.
Oui, oui, on en est à ce stade-là. Voilà. Et après, vous avez des bons policiers aussi, vous en avez des mauvais. Voilà, tout dépend sur qui vous tombez.
Ouais.
Voilà. Et à cette époque-là, malheureusement, voilà, je ne donnerai pas le département dans lequel j'étais, mais j'étais dans un département, donc on n'était pas du tout sur Bordeaux. Mais voilà, vous êtes juste une femme qui a pris des coups parmi tant d'autres. Et donc, automatiquement, même si vous portez plainte, il n'y a pas de suite, il ne se passera rien. Il faut attendre le drame.
Est-ce que vous êtes rapprochée du coup d'associations ou d'autres femmes dans votre cas ? Vous avez rencontré des cas similaires aux vôtres pour chercher du soutien ?
Alors, je me suis beaucoup réfugiée sur le peu de membres de ma famille qui, entre guillemets, qui ont accepté de me soutenir et témoigner pour effectivement que j'obtienne la garde de mes enfants. Je vais pas vous mentir que tous ceux qui ont ouvertement refusé de me faire des attestations, je les ai complètement sortis de ma vie, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont été témoins de choses et qui, entre guillemets, on voit mais on laisse faire aussi. Et ça devient très triste, parce que les gens pensent vraiment qu'à eux maintenant. On est très content d'aller manger chez les amis pour le temps d'une soirée, pour un bon repas, mais des fois on assiste à des choses et on disparaît derrière. Voilà. Donc d'autres femmes dans ma situation, oui, j'en ai rencontré. Voilà, et malheureusement, bah, pareil, il y en a qui sont comme moi, qui sont encore en combat, parce que bah, ça traîne, parce que la justice, malheureusement, est très, 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 très longue. Voilà, on n'a pas eu la chance, malheureusement, de Miss Univers, Miss France, hein, de Iris, voilà, qui, elle, a pu saisir assez très rapidement et que le monsieur a été condamné très rapidement. Voilà, donc après... C'est vrai que et puis on n'a pas les mêmes moyens non plus. Donc tout ça, c'est un cercle vicieux, malheureusement, et c'est très triste.
Et là, qu'est-ce qui se passe mentalement quand vous vivez l'enfer avec votre mari, que vous arrivez enfin à trouver le courage d'aller voir quelqu'un, d'aller voir les policiers, de quitter le domicile, de quitter cet enfer, et que là vous vous rendez compte qu'en fait avec les procédures judiciaires et tout, vous êtes encore dans une spirale et vous n'arrivez pas en fait à vous détacher de ce cas en fait.
C'est compliqué parce que déjà tout ce qui est violence conjugale, malheureusement, c'est qu'on reste aussi dans le déni pendant très longtemps, parce qu'on est pris par les sentiments envers la personne, que la personne prend conscience aussi de ce qu'elle vous fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de manipulation derrière, donc ça s'excuse, ça dit que ça va se faire soigner, enfin voilà, c'est tout un rituel. Moi aujourd'hui, voilà, psychologiquement là-dessus, je m'en suis complètement sortie. Voilà, j'ai les procédures qui sont lourdes psychologiquement à gérer, mais bon, c'est vrai que je suis plus forte. Je culpabilise énormément par rapport à mes enfants, parce que j'estime que j'aurais dû ouvrir les yeux beaucoup plus tôt, parce qu'il faut pas se mentir, c'est quand même eux qui prennent le plus. Moi, j'ai pris les coups, mais j'ai mon âge, j'ai construit ma vie. Eux, ils l'ont subi aussi, mais eux, ils doivent commencer et construire leur vie. Donc aussi, les séquelles ne sont pas que sur moi, elles sont surtout sur eux. Et c'est là aussi, j'ai ma plus grande culpabilité, là où je culpabilise le plus, c'est de pas avoir entamé les démarches et d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. Mais c'est toujours pareil, vous êtes aussi dans la peur, parce que mine de rien, prendre des coups, il y a un moment donné, vous ne savez jamais comment et à quelle force, puisque ce n'était jamais de la même manière. Donc c'est très très compliqué. On met du temps à ouvrir les yeux, à avoir le courage. Et il y a beaucoup de femmes, hein, et c'est toujours cette phrase qu'on vous dit, mais pourquoi vous n'êtes pas partie plus tôt ? Voilà. Mais moi, comme je dis, tant qu'on ne vit pas la situation, on ne peut pas la comprendre. Donc c'est un combat qui est très lourd et on a très peu d'aide. On en dit, on en parle, hein, des violences, ce genre de choses. Mais entre ce qui est dit et quand vous mettez tout en pratique, vous êtes sur deux mondes. Et on est vraiment sur deux mondes et moi, c'est devenu vraiment un combat.
Moi, je me posais une question. C'était tout à l'heure, vous parliez entre la première claque jusqu'au moment où vous décidez finalement d'aller porter plainte parce que c'est le coup de trop ou parce que la situation, ça y est, ça ne peut plus rester comme ça. En fait, est-ce qu'entre ces deux moments-là, ce qui vous faisait rester, vous parlez de déni, etc., mais ce ne serait pas aussi l'espoir que ça aille mieux, que vous retrouviez le avant de la relation, simplement ?
Ah si, parce qu'à chaque fois, il s'excusait, il pardonnait, il pleurait. On est parti, on a fait une thérapie conjugale, il est parti voir des addictologues pour se faire soigner. Il a essayé de prendre un traitement, il a refusé d'aller en cure, mais il a accepté quand même là le traitement par médicament. Mais malheureusement, on ne sort pas de l'alcool non plus comme ça. C'est très long, il faut être aidé, et malheureusement, c'est un combat qui est propre à soi-même. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas envie. De toute façon, de sortir de quelque chose. Donc, même si j'y ai cru, et ça a été, c'est-à-dire que même un médecin m'avait dit à un moment donné, vous êtes dans le déni de la personne qui est dans le déni. Voilà, c'est très compliqué. C'est des mots sur des mots. Oui. Voilà, et à un moment donné, ils m'ont dit, maintenant, c'est faut laisser. C'est vous, d'abord, c'est vos enfants. Et bah, lui, il se soigne pas. Mais à un moment donné, bah, on va pas attendre qu'un matin, j'ai plus la possibilité de me réveiller tout court, en fait.
Et je me demandais aussi, parce que vous avez dit donc qu'avant ça, les seuls problèmes qu'il avait eu, c'était avec ses parents
famille.
Et sa famille, en fait.
Tout à fait.
Et est-ce que donc, ça a duré combien de temps avant que ça commence un peu à déraper la relation, enfin, de son côté surtout ? Il y a eu des années où ça allait ou...
Oui, tant qu'on ne vivait pas ensemble.
Tant que vous ne viviez pas ensemble. Voilà. Et est-ce qu'il y avait des signes déjà qui montraient, disons, une petite déviance à ce niveau-là ou pas du tout ?
Au début, il avait alcool festif. Alors, ça ne m'a pas plus inquiété que ça parce que c'est un ancien rugbyman. Donc, j'ai envie de vous dire, la troisième mi-temps, ils connaissent très bien. Voilà, que dans sa famille, le lever de coude, ça fonctionne très bien aussi. Donc, jusque-là, ça allait. Et après, j'ai commencé des fois à me poser des questions. C'était quand on faisait des sorties sur les crises de jalousie. Voilà, où j'avais des grosses crises de jalousie à un moment donné, quand quelqu'un me parlait, je travaillais dans un milieu où il y avait beaucoup d'hommes, puisque je travaillais dans le monde de l'hôtellerie, et effectivement, bah, c'est un métier aussi où je n'ai pas pu continuer, puisque bah, ça ne lui plaisait pas que je travaille avec des hommes en permanence. Donc, il y avait des petites alertes ou quoi que ce soit, mais voilà, j'étais jeune, toujours pareil... On fait des erreurs, ouais. Hein, et puis on vieillit, puis malheureusement, on en paye le prix plus tard. Mais c'est pour ça que c'est très important d'être alerté maintenant et d'en parler, parce que ça devient... on met aussi les femmes de violence, et ça arrive aussi aux hommes, attention, hein, c'est des deux côtés, mais on vous met dans une case à part aussi, où, entre guillemets, vous êtes une personne à problème. En fait, on vous associe, vous êtes un cas social, voilà. Et là, donc, effectivement, vous vous retrouvez
c'est vous qui soulignez le problème et qui allez vous en plaindre, donc c'est vous le problème.
Oui, c'est ça, c'est vous le problème, exactement. Okay. Et puis on finit par avoir, voilà.
Un peu comme avec toi, c'était pareil, c'était. Tu soulignais le problème et donc on te disait, le directeur de ton école te disait que c'était toi le problème du coup.
Oui.
C'était un peu pareil.
Oui, ouais, non, mais ça, c'est souvent quand on ne sait pas quelle réponse apporter aux gens. Et en fait, c'est dès qu'il y a quelque chose qui. Enfin, dès qu'ils ne comprennent pas, ben forcément, ils vont là où la personne est la plus faible, on va dire, par rapport à la situation. Et ouais, ben forcément, ça mène à des discussions qui mènent à rien, en fait. Puisque bon, on voit bien où est le problème, on voit bien qui c'est qui commet les délits, en fait. Et pourtant, c'est pas cette personne-là qui va être forcément réprimandée ou qui va être forcément pointée du doigt, justement. Donc, ouais, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont pas. Après, là, on va parler des solutions, etc. On va revenir dessus, sur tous vos cas, etc., tout ce qui s'est passé. On fera en sorte que ce soit une discussion entre tout le monde. Mais là, entre-temps, ben, Noé, je te laisse lancer...
Ouais, on a fait le petit tour de table pour parler de la problématique et donc ensuite on verra les solutions possibles. Mais d'abord, on est allé voir une psychologue clinicienne et éducatrice spécialisée, Gwendoline Sobolewski, qui nous a gentiment accueillis hier pour parler un peu du harcèlement en général. Donc là, ça évoque le harcèlement scolaire comme le harcèlement au travail, petite ou grande forme de harcèlement. Et on voulait donc avoir le point de vue d'une professionnelle pour ça. Donc on va écouter ça.
Vous pouvez recevoir des jeunes victimes de harcèlement scolaire. Vous pouvez également recevoir des personnes âgées victimes de harcèlement en fait au sein des établissements dans lesquels ils sont accueillis. Vous avez également des personnes qui viennent consulter et qui sont dans la vie active et qui sont victimes de harcèlement au travail. Il y a différents lieux en fait de harcèlement, mais à chaque fois c'est le même processus de violence qui se met en place. L'idée c'est de trouver déjà un soutien de manière directe, c'est-à-dire autour de soi, pour pouvoir peut-être avoir les conseils d'aller d'aller voir un psychologue. Ça peut être déjà dans son école, de se tourner vers son infirmière scolaire, ou son médecin scolaire, ou son pion, ou son ami, tout simplement, pour essayer d'avoir différents contacts autour de soi, qui vont après, eux, c'est leur job, faire l'orientation. Toutes les histoires sont singulières et uniques. Il n'y a jamais une même manière de déployer, en fait, une histoire. Par contre, le mécanisme de violence qui est actif dans le harcèlement est toujours le même. Et ça se retrouve dans toutes les situations. Il y a plein de solutions qui existent. À plus ou moins il y a un terme, ça dépend, parce qu'on est toujours un être humain, c'est toujours le résultat de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Donc on n'a pas tous le même patrimoine génétique, on n'a pas tous le même patrimoine non plus social, on n'a pas tous les mêmes atouts et les mêmes difficultés non plus. Donc tout dépend des vulnérabilités de l'individu qui se présente à moi en consultation et puis de ses points forts. Et un psychologue, c'est là pour regarder et les points forts et les points faibles, pour travailler sur les deux. Alors déjà, ça me semble important de définir ce que c'est le harcèlement. Le harcèlement, c'est vraiment une exposition qui est répétée et à long terme, à moyen ou long terme, et qui nous met face à des actions qui sont négatives de la part d'une ou plusieurs personnes. C'est pas un incident qui est isolé. Il y a une répétition qui se met en place. La loi, maintenant, par exemple pour le cyberharcèlement, elle le définit comme un délit. Ça peut aller jusqu'au crime parce qu'en fait, la violence peut prendre des formes physiques, elle peut prendre des formes psychiques et sexuelles. Et donc, c'est pas la même nature d'infraction selon la gravité en fait de l'acte qui a été commis. Donc après, au niveau physique, vous pouvez avoir des blessures. Il y a une intentionnalité de blessé qui est là, mais qui est à relativiser en fonction de l'âge de l'agresseur. S'il est tout petit, parfois les tout petits, pour exprimer leurs besoins, vu qu'ils ne peuvent pas parler, ils pleurent, ils crient, ils tapent, voilà. Maintenant, néanmoins, quand cette intentionnalité de blesser, elle doit être relativisée, d'empêche qu'il faut quand même aller repérer un contexte de la violence, même chez les tout-petits, et protéger la personne qui en est victime. Ça peut prendre une forme aussi psychique, donc verbale, émotionnelle, ça peut être de l'isolement, du rejet, ça peut être des mensonges, des humiliations, de la diffamation, des punitions aussi, parce que ça peut être par exemple un professeur ou un adulte qui harcèle un plus jeune. Et il y a aussi du coup des formes sexuelles avec des intimidations sexuelles, voire des viols. Donc tout ça, c'est important de le redéfinir, et ça peut aussi s'établir de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire directement par les actes, par les mots, mais indirect aussi, ça peut être les rumeurs, les stratégies d'isolement, etc. Et il y a le cyberharcèlement, et ça, c'est hyper important maintenant, ça a été très développé ces dernières années, parce que dans le cyberharcèlement, il y a l'anonymat et il y a le fait qu'il n'y a pas de limite dans le temps, en fait, c'est le jour et la nuit, ça ne s'arrête jamais. S'il n'est pas traité, dans tous les cas, en fait, il y a différentes conséquences qu'il peut y avoir chez un individu. Il y a des conséquences qui peuvent être au plan de l'engagement, soit dans son travail, soit dans la scolarité. Ça peut avoir... L'élève, par exemple, peut se sentir de plus en plus étranger à l'école, ou on peut se sentir de plus en plus étranger au travail qu'on veut faire, pour lequel on est employé. Et dans tout ça, le sentiment de devoir se désengager petit à petit, voire d'arrêter et de complètement stopper sa scolarité ou abandonner, démissionner de son travail. Mais il y a aussi des conséquences au plan de la santé. Il peut y avoir un sentiment de solitude. En fait, face à un danger, il y a plusieurs manières de réagir. On peut soit combattre, du coup, vous allez peut-être développer de l'agressivité ou de la violence en retour à cette violence qu'on vous inflige. Soit vous pouvez fuir, donc on va développer des stratégies d'évitement, des phobies scolaires, des absences, des retards répétés en cours, de l'absentéisme au travail, des arrêts maladies répétées. Soit vous pouvez être complètement transi, sidéré, voire jusqu'à être dissocié dans le cas d'un psychotrauma, par exemple. Et dans les conséquences, ça peut aussi aller jusqu'aux idées suicidaires et du coup les tentatives de suicide. Je dirais que c'est un devoir de concitoyen entre tous, entre les élèves aussi, de pouvoir en fait être attentif à son prochain, et en même temps le travail de tous les acteurs en fait de l'établissement scolaire ou d'un établissement de travail, peu importe en fait le lieu où se produit cette violence là. Et oui, il y a un vrai travail de repérage en fait. Dans le repérage, il y a plusieurs critères. Il y a la fréquence, il y a la présence parfois de spectateurs ou de témoins, il y a l'incapacité à se défendre, l'isolement, il y a l'intentionnalité de blesser ou voire de nuire, donc voilà, qui n'est pas qualifié de la même manière au niveau juridique, hein. Ça peut être de la diffamation ou de la calomnie. Donc voilà, il y a tous ces critères-là de termes de fréquence, gravité, de nature des actes à repérer par les professionnels ou les adultes qui entourent en fait la personne qui est victime de harcèlement. Et donc surtout, à chaque fois, il y a toujours une asymétrie relationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une relation qui est réciproque entre un individu et les autres, ou un un individu et une autre personne, il y a vraiment un rapport asymétrique avec une relation de pouvoir qui se met en place. Il y a des individus qui vont mettre 2 mois à s'en remettre, il y en a d'autres qui vont pas du tout développer de trauma et qui vont dépasser ça de manière assez, je dirais, facile, parce qu'ils vont être bien entourés, ils vont être bien orientés, etc. Ça dépend tellement de facteurs qu'il n'y a pas vraiment de temporalité à pointer du doigt, mais plutôt davantage une temporalité à respecter que chacun. Donc il vaut mieux prendre le temps de bien se traiter et de bien comprendre tous les mécanismes qu'il y a en jeu, toutes les conséquences qu'il y a en jeu et à quoi ça tient, pourquoi ça s'est mis en place, ce rapport de pouvoir. Il y a des phrases que je répète un peu tout le temps, c'est vraiment apprendre à repérer cette relation de pouvoir-là. Et c'est surtout arriver à se prononcer pour soi-même, parce que dans une relation de pouvoir, il y a un moment donné où l'autre prend le dessus parce qu'on arrête de se prononcer pour soi-même. Donc l'allié de la violence, l'allié de l'harcèlement, c'est vraiment le silence, le tabou, le fait de ne pas parler. Et donc s'il y a des conseils que je recommande à chaque fois, c'est de développer des réseaux où on peut parler de ces sujets-là quand ils arrivent, mais également des réseaux intrascolaires ou à l'intérieur du travail où en fait on engage sur de l'éducation civique, où on peut parler en fait vraiment de tous ces sujets en fait qui peuvent conduire au harcèlement, parce qu'il y a différents profils qui sont plus susceptibles que d'autres d'être harcelés. C'est le traitement de la différence en fait. Comment on conçoit la différence, comme un enrichissement ou comme une crainte, comme une peur, et ça finit par provoquer de la stigmatisation, et après il y a des mécanismes comme ça de rejet, d'exclusion qui se mettent en place, etc. En termes d'outils, vous avez par exemple le harcélomètre qui permet d'avoir une petite réglette graduée avec différents questionnements qui va du vert au rouge, et bien sûr plus on va vers le rouge, plus on est dans une relation qui est asymétrique, donc une relation de pouvoir, où du coup il y a un risque d'emprise. Dans les premières graduations vertes par exemple, c'est on te soutient dans les moments difficiles, tu fais du sport, tu as des loisirs, etc. On est vraiment dans une relation qui est plutôt saine. Dans le orange-rouge, on passe dans une relation où déjà on dit beaucoup moins les limites, et c'est ça un des mécanismes de la relation de pouvoir, c'est que de moins en moins on se prononce pour soi-même et on dit ce à quoi on consent ou on consent pas. Et dans le rouge, en général, quand on y est, voilà, comme par exemple, on t'incite à te faire du mal, on met des photos de toi sur internet sans ton accord, etc., il n'y a déjà plus le prononcement pour soi-même. Il est complètement chinté et il y a un gros risque d'emprise. Toutes les relations de pouvoir ne tombent pas dans de la domination et de l'emprise, mais peuvent par contre développer un risque d'emprise. Et par exemple, au travail, quand vous avez un patron qui est au-dessus de son employé, le patron a un statut hiérarchique supérieur, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va mettre avec vous en place une relation de pouvoir. Ça peut être rester dans une relation réciproque avec des statuts différents parce qu'on n'a pas les mêmes compétences et du coup pas le même traitement de salaire, etc. Mais ça doit rester dans une relation symétrique avec des rapports en fait de réciprocité. Et la réciprocité, c'est pas forcément non plus l'égalité. Tiens, je te donne ça, donc toi tu me donnes également la même chose. Il y a des fois, c'est en fonction des besoins, on varie en fonction de nos besoins, de nos envies et de nos limites. Mais ça reste toujours à l'écoute, à mi-chemin entre l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. C'est jamais au détriment de soi, mais c'est jamais au détriment de l'autre. À partir du moment où c'est au détriment de l'un ou de l'autre, il y a déjà un enjeu de pouvoir qui est là. Donc le risque de violence, de harcèlement ou d'emprise ou de radicalisation ou de... voilà. Un autre conseil, ce serait vraiment de développer tous les affichages, de mettre des harcélomètres à disposition, par exemple dans les écoles ou dans les lieux de travail pour des patrons ou des équipes de travail qui voudraient se prémunir de ça chez eux. Ce serait de pouvoir à chaque fois être orienté vers soit l'infirmière scolaire, soit le médecin scolaire, soit la médecine du travail. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers la médecine du travail ou son médecin généraliste et éventuellement alerter des syndicats, et des syndicats pas forcément internes à l'établissement de travail, mais des syndicats extérieurs, c'est possible, c'est autorisé normalement par la loi si je ne me trompe pas, et avoir des délégués qui représentent le personnel, voilà, et qui vous représentent parfois même dans les entretiens avec vos patrons. Il faut s'entourer et remettre du tiers dans cette relation où il n'y a plus de tiers. Et surtout, quand les gens viennent ici, ils ont une perte de repères, parce que quand il y a un brouillage des codes et des repères dans la relation de pouvoir et dans la relation de violence, on n'arrive plus, et c'est aussi ça qui empêche de parler, c'est qu'on n'arrive plus à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, si on a avait le droit ou si on aurait dû dire quelque chose. Et en fait, du coup, on arrive chez le psychologue, en général, on est complètement perdu. C'est une question de perte de repère, d'arriver à se prononcer à nouveau pour soi-même et de reprendre un petit peu sa capacité d'initiative et son esprit critique. Se faire entourer par ses amis, sa famille, quand c'est possible, quand c'est pas possible. Et vous pouvez téléphoner. La maison des adolescents de la Gironde, vous avez plein d'éducateurs, de psychologues et de gens qui sont formés, qui répondent aux questionnements des adultes et des enfants, qui orientent toute la journée. C'est gratuit, il y a plein de choses et c'est par contre le job des institutions, donc école, état, travail, etc., de les rendre accessibles, ces données-là, pour que la personne, elle sache comment s'orienter.
Et donc on remercie Gwendoline Sobolski de nous avoir répondu hier donc, et oui, donc elle nous montrait pas mal de solutions pour répondre à cette problématique du harcèlement, donc par exemple le harcélomètre. Alors personnellement nous avec Noé on ne connaissait pas du tout, et est-ce que vous autour de la table vous en aviez déjà entendu parler de cet outil en fait, ou pas du tout justement, est-ce que vous aussi ça vous semble nouveau, je sais pas.
Moi, j'avais déjà vu l'affiche à la mission locale et tout est détaillé dessus. Vraiment tout pour voir à quel niveau d'harcèlement. Surtout après, on voit aussi dans les relations en couple à quel stade où vraiment c'est toxique. Quoi. Vraiment, on voit vraiment le détail. Vraiment, c'est, pour résumer l'image, ça va du vert au rouge. Donc c'est détaillé, de chez détaillé, des fois on voit des trucs, franchement, on est là, ça existe vraiment. Et oui, ça existe vraiment.
Oui, c'est de ce qu'on a vu nous aussi, ouais, donc c'est bien détaillé. En fait, c'est comme un quadrillage sur une règle de couleur qui va donc du vert au rouge. Et donc au vert, c'est cool, si ça vous arrive, c'est bien. À partir du orange-rouge, c'est qu'il faut commencer à s'inquiéter et même en parler. Et en autre solution, là autour de la table, quelles ont été en fait, vous, les solutions vers lesquelles vous avez essayé de vous tourner, ou qu'est-ce qui vous a, vous, aidé, si ce n'est pas forcément une solution, mais pour vous sortir un peu de l'engrenage, tout ça, du harcèlement. Est-ce qu'il y a des choses qui... Ou est-ce que c'est juste des gens, par exemple, qui vous ont tendu des mains à des moments? Ou est-ce que de vous-même, vous avez pu trouver des solutions? Ou c'est compliqué de trouver de solutions
Moi, personnellement, c'est-à-dire que quand ça a commencé en CP, j'en ai parlé avec mes parents. Et chaque année, on en parlait aux professeurs. Il y a deux professeurs qui m'ont sorti que c'était pas possible d'être harcelée à mon âge. Donc vraiment, on a continué de batailler jusqu'en CM1. Et CM1, j'ai eu une prof incroyable. Et au bout d'un moment, vraiment, j'en avais ras-le-bol. Donc à peine, c'était surtout un gars. Il commençait à m'embêter. Direct, je le disais. Du coup, j'allais voir la prof 3-5 fois par jour. Et après, il a arrêté au bout d'un moment.
D'accord. Et du coup, de votre point de vue à toutes là, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ce qui est fait pour lutter contre les différentes formes de harcèlement? Ou est-ce que justement il y a vraiment du travail à faire? Bon, en regardant les réactions, je crois déjà avoir la réponse. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler un peu de ça? Qu'est-ce que vous en diriez si vous deviez répondre à cette question justement?
Moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer encore.
C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, si jamais toi demain tu avais le pouvoir d'améliorer ou d'ajouter même des outils, qu'est-ce que tu ferais?
Je vais te donner mon expérience. J'ai essayé de porter plainte. On m'a dit que ça pouvait ne pas être moi, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais j'ai aussi vécu du cyberharcèlement, où c'était un freestyle et on me nommait dedans, on me nommait mon copain dedans, et on disait comme quoi on m'insultait dedans, très clairement. Et quand j'ai essayé de porter plainte, on m'a dit ça peut être une autre Jade, ça peut être un autre Alexis. Donc au final, c'est passé à la trappe. Mais faut vraiment qu'ils approfondissent tout ça.
Est-ce qu'autour du harcèlement, du coup, il n'y aurait pas une forme d'évasion? Les gens, ils essayent... En fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas aider, mais c'est qu'ils fuient le harcèlement. Parce que c'est un sujet compliqué, ça prend forcément du temps dès qu'il y a une situation autour du harcèlement. Est-ce que du coup, tous les gens qui sont autour, donc, que ce soit les policiers de par les plaintes, mais même autres, les profs, est-ce qu'ils ne fuient pas la réalité en fait, parce que c'est compliqué de gérer du harcèlement en fait?
Moi personnellement, les profs, ils ont toujours été à l'écoute par rapport à tout ça. Surtout au collège, lycée, ils ont beaucoup été à l'écoute. Mais c'était surtout le proviseur et la proviseure adjointe qui jouaient pas leur rôle, quoi, on va dire ça comme ça.
D'accord. Et oui, t'as une question ?
En fait, on remarque qu'à chaque échelle d'harcèlement, il y a un problème avec un des interlocuteurs qui répond pas, et du coup ça fait que empirer et ça fait que partir en spirale infernale. Et que ce soit à ton échelle ou à celle de Virginie, c'est un peu la même chose. Je sais pas si tu peux peut-être en parler de...
Comme je parle, là, j'ai eu la chance. Moi, c'est vraiment le CIDFF qui m'a vraiment aidée. Et comme j'ai eu une avocate vraiment, on va dire, en or, qui a vraiment compris, voilà. Parce que c'est vrai que quand vous tombez aussi sur des avocats qui sont payés par l'aide juridictionnelle, ils sont pas payés grand chose. Donc des fois, ils ont pas forcément non plus envie de trop s'investir dans votre dossier. Donc là, je suis vraiment tombée sur une avocate vraiment en or. Donc ça a été aussi ma plus grande main tendue, on va dire. Les conseils juridiques par le CIDFF, les psychologues. J'ai aussi des amis donc voilà, qui m'ont tendu la main. Ça m'a permis aussi de pouvoir m'installer sur cette région, puisque du coup j'avais quelqu'un qui habitait ici, qui m'a donc logé pour pouvoir, à chaque fois que je descendais de ma région, de mon ancienne région, pour pouvoir me loger. Pour pouvoir me donner des contacts, pour trouver du travail, pour pouvoir justifier aussi le pourquoi du comment je quittais aussi la région, parce que vous ne partez pas comme ça non plus quand vous avez des enfants, parce qu'on peut aussi vous les retirer. Et saisir aussi le JAF avant mon départ pour demander l'autorisation de partir. Donc pour faire toutes ces démarches, il a bien fallu qu'il y ait des amis aussi qui m'ouvrent leurs portes et qui m'hébergent avec mes enfants. Pour avoir ces autorisations au niveau du JAF. Donc j'ai dû trouver un emploi et un logement que j'ai eu très très rapidement par des associations donc, du secteur avec mes preuves de violence conjugale, mes plaintes. Et c'est bête ce que je vais vous dire, mais malheureusement, ce sont des photos de mes coups qui ont été beaucoup plus parlants que les plaintes.
Merci beaucoup pour ce témoignage. On va changer d'échelle et on va retourner sur le harcèlement scolaire avec Wilfried Izanga, le président de l'association ALCHM, donc l'association pour la lutte du harcèlement, et de la maltraitance infantile. Et donc on a eu le plaisir de le recevoir hier pour qu'il réponde à nos questions. Et donc on va écouter ce petit témoignage de Wilfried Izanga.
Nous sommes à Bordeaux, bientôt peut-être dans toute la métropole, parce que nous allons avoir des antennes relais dans chaque ville, parce que nous agissons au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons commencé par le harcèlement scolaire, c'était l'étape, parce que nous avons vu qu'au niveau de la France, les chiffres augmentaient de manière exponentielle. Donc aujourd'hui, il faut savoir que rien que la France, nous avons près de 800 000 à 1 million des enfants harcelés par an. Et avec le phénomène que nous avons tous attendu des réseaux sociaux, mais en fait, le cyberharcèlement a pris vraiment son ancrage au niveau des réseaux sociaux. Et donc, nous avons notre crainte et que ces chiffres, malheureusement, dans les jours à venir, vont exploser. Et donc, c'est pour ça que nous avons commencé avec le harcèlement scolaire. Mais dès cette année 2025, nous allons vraiment nous attaquer au harcèlement au niveau des entreprises. Nous, en fait, pour vraiment lutter contre le harcèlement, déjà, il y a des familles qui nous appellent, dont nous accompagnons les familles. Et aussi, au niveau, nous faisons de la prévention parce qu'on ne peut pas seulement et évidemment attendre que les enfants soient victimes et commencer à proposer des choses. Et il faut savoir, un enfant qui est harcelé est très souvent, et on entend ça au niveau des familles, « Ah, je n'ai pas vu venir ». Les enfants, ils ont tendance, lorsqu'ils sont vraiment dans ce nuage-là, ils cachent leur mal-être et très souvent, ça passe vraiment sur les radars. Et il faut savoir qu'un enfant, s'il est harcelé 6 mois après son mal-être, ça peut avoir des conséquences. Donc nous, non seulement nous accompagnons les familles pour arrêter ce phénomène ou ce fléau, mais nous faisons aussi de la prévention, nous passons dans les écoles, au niveau des associations de parents d'élèves, donc pour aussi des familles et des espaces familles pour parler comment déceler des cas de harcèlement, parce que c'est pas aussi évident que ça, parce que tout simplement les gens ne sont pas aujourd'hui armés pour déceler. Si vous prenez au niveau de l'éducation nationale, beaucoup des enseignants ou enseignantes n'ont pas été formés pour faire face à ce fléau. Donc c'est pour ça que nous faisons de la prévention, pour montrer aux gens, pour aider, pour essayer d'arrêter ce phénomène. Aujourd'hui, nous avons un conseil d'administration qui a 7 membres. Bon, je suis le directeur et je suis épaulé par des bénévoles. Et nous sommes une cinquantaine qui travaillons de manière active au niveau de l'association, parce que bon, il faut qu'on s'occupe au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Je tiens vraiment à féliciter et vraiment à fêter tous ces bénévoles qui nous encouragent, mais qui viennent aussi, qui donnent de leur temps pour aller dans des écoles avec nous ou faire des voyages lorsque nous allons dans les quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine. Et il faut savoir que certains d'entre eux, ils payent les déplacements parce que bon, nous sommes une association qui n'est pas vraiment subventionnée. Pour des raisons, bon, on ne peut pas les étaler ici, parce que bon, il y a des institutions qui considèrent que le harcèlement, c'est des gadgets de parents, ça n'existe pas en France. Donc nous sommes encore en 2025 aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le harcèlement n'existe pas. Je pense qu'on ne mesure pas vraiment le danger de ce fléau, parce que ce danger touche les jeunes. La majorité, c'est des jeunes. Des jeunes gens ou même des jeunes professionnels. Mais ces jeunes-là, c'est l'avenir d'un pays. Lorsqu'on touche à la jeunesse, c'est qu'on est en train de toucher au futur d'un pays. Or, le harcèlement produit en fait a des conséquences, un impact négatif sur l'avenir des jeunes. C'est prouvé que des enfants qui sont harcelés, si ce n'est pas traité dans les 6 mois, ils doivent avoir des séquelles à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, nous savons, ceux qui sont harcelés, les élèves qui sont harcelés, deviennent aussi harceleurs. Ce qui est dramatique aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site internet, vous tapez lchm.fr où vous tapez association de lutte contre le harcèlement. Il n'y a pas beaucoup d'associations parce que beaucoup ont fermé les portes, tout simplement. Il n'y a pas des subventions qui suivent.
Et on remercie Wilfried Izanga pour cette courte entrevue. Et donc, pour terminer cette émission, je vais vous demander, de par vos expériences, si vous pouviez un peu donner des conseils à nos auditeurs et auditrices qui seraient potentiellement eux-mêmes dans une situation de harcèlement. Qu'est-ce que vous auriez bien aimé entendre quand vous l'étiez, justement? Voilà, les petits conseils que vous pouvez peut-être avoir.
Moi, personnellement, d'en parler aux gens où on a confiance et voir si cette personne aussi en face de vous qui est à l'écoute, de voir, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, d'avoir quelqu'un qui nous écoute et qui nous aide pour nous soutenir dans ce cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Moi, ce que je peux dire, c'est que ça prend forcément fin un jour. Et surtout, même si c'est dur, ne pas lâcher l'affaire, vraiment se battre jusqu'au bout.
Et moi, ce serait plus pour le harcèlement scolaire. Allez à la MDA, la Maison des Adolescents. Ils peuvent vous aider, vous renseigner. Et c'est totalement gratuit et anonyme.
Et dernier aussi, mon conseil, on peut s'en sortir, c'est très difficile de faire les premières démarches, mais surtout quand vous vous faites refuser dans un commissariat pour une plainte, sachant qu'ils n'ont pas le droit de refuser un dépôt de plainte, n'hésitez pas à faire votre dépôt de plainte directement auprès du procureur de la République, donc de la région ou de la ville où vous êtes. Ils sont obligés de prendre votre dépôt et là, il y aura automatiquement une réponse, un suivi, mais vous aurez au moins des traces prises de suite.
Merci à tous pour cette émission. On remercie encore Pierre qui n'a pas présenté aujourd'hui mais qui a aidé à la réalisation de cette émission. Merci à Jade, Kelly, Mayra et Virginie. On espère que le combat se terminera un jour et que vous sortirez de... Il faut du courage et il faut surtout en parler et jamais s'isoler. On vous a proposé quelques solutions. Le 30-20 pour le harcèlement scolaire, le numéro à appeler. Le 30-18 pour le cyberharcèlement. Et il y a la maison des adolescents en Gironde et même partout. Merci à tous. Merci à Yon de d'avoir co-animé l'émission avec moi.
Pas de souci.
Et merci à Nico en régie. Et à une prochaine pour Jeunesse Influente. Merci beaucoup.
Jeunesse Influente.
C'était Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis 14h-15h, à retrouver en podcast sur eauderadio.fr.